micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le nouveau coronavirus poursuit ses ravages aux États-Unis, mais un ralentissement de la mortalité a alimenté l'espoir dimanche en Europe. En Italie, le nombre de morts officiellement recensés en 24 heures, 525, est le plus bas depuis plus de deux semaines. La courbe a commencé sa descente, s'est félicité le patron de l'Institut supérieur de la santé. L'Espagne, où les autorités estiment avoir stabilisé la propagation du virus, a enregistré 674 morts au cours des dernières 24 heures, un chiffre en baisse pour le troisième jour consécutif. Et la France a recensé 357 décès de plus à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, soit le chiffre le plus bas depuis une semaine. Ici aux États-Unis, l'administrateur fédéral des services de santé publique, Jerome Adams, a averti hier que cette semaine sera un moment comme Pearl Harbor, comme le 11 septembre, sauf que ce ne sera pas localisé, ce sera dans tout le pays. Les États-Unis, qui ont plus de 337 000 cas de COVID-19, se sont approchés dimanche de la barre des 10 000 morts, dont plus de 4 000 pour le seul État de New York, avec plus de 1 200 morts en 24 heures, malgré les mesures de confinement. Nous commençons à voir des lueurs d'espoir, a toutefois estimé dans la soirée le vice-président Mike Pence, qui a mentionné lors d'un point de presse à la Maison-Blanche une apparente stabilisation des nouvelles infections. Pour le président Donald Trump, cela n'est pas antinomique. Nous savons tous que nous devons atteindre un certain seuil qui va être horrible en termes de mort pour que les choses commencent à changer, a dit M. Trump. Dans le monde, le nombre des cas de contamination par le nouveau coronavirus dépasse 1,2 million, parmi lesquels plus de 68 000 décès dans 191 pays et territoires, selon un décompte de l'AFP. L'Italie, 15 877 morts, et l'Espagne, 12 418, sont les pays au monde comptant le plus de morts. La France dénombre 8 078 décès. Le premier ministre britannique Boris Johnson, testé positif au nouveau coronavirus il y a 10 jours, a été hospitalisé dimanche pour subir de nouveaux examens, ont annoncé ses services précisant qu'il s'agit d'une mesure de précaution. La reine Elisabeth II a remercié le personnel soignant ainsi que les Britanniques qui restent chez eux pour éviter la propagation du virus dans une allocution télévisée historique. « Nous vaincrons le coronavirus », a lancé la reine. L'épidémie a fait près de 5 000 morts dans le pays. En Côte d'Ivoire, des habitants de Yopougon, au quartier populaire d'Abidjan, ont violemment démantelé hier un centre en construction dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, ont indiqué des responsables de la police et du ministère de la Santé. Les populations ont manifesté contre l'installation de ce centre car elles estiment qu'il est situé trop à l'intérieur d'un quartier d'habitation, a expliqué à l'AFP une de ses sources. Ce n'est pas un centre de traitement des maladies, mais un centre de prélèvement qui était en construction, comme il y en a un peu partout, qui sont mis en place, a assuré de son côté un responsable du ministère de la Santé. Un bilan officiel a fait état dimanche de 261 cas et 3 décès dus au coronavirus. Mahmoud Djibril, ex-chef de l'exécutif de la rébellion libyenne ayant contribué à renverser le régime de Muammar Kadhafi en 2011, est décédé dimanche au Caire des suites de la maladie du COVID-19, a-t-on appris auprès de son alliance des forces nationales. Selon un porte-parole, son état était stable et il s'apprêtait même à quitter l'hôpital. Il a précisé que M. Djibril avait des problèmes de santé antérieurs à son infection par le coronavirus.
Mmh.
avec vous Idrissa Seydoudia. La suite de l'actualité, l'Éthiopie a annoncé hier deux premiers décès dus au coronavirus. Il s'agit d'une femme de 60 ans et d'un homme de 56 ans, tous deux de nationalité éthiopienne. C'est l'un des derniers développements liés à la pandémie en Afrique, comme nous le résume Jacques Aristide.
L'Éthiopie n'a enregistré officiellement depuis le 13 mars dernier que 43 cas de Covid-19 pour la plupart des personnes ayant voyagé à l'étranger. Mais le nombre de tests effectués est resté extrêmement limité. Au Soudan du Sud, un premier cas de contamination a été répertorié hier. Le pays est l'un des derniers en Afrique à indiquer que la maladie a atteint son territoire. Au Sénégal, le président Macky Sall a prolongé de 30 jours l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Pour sa part, la Côte d'Ivoire recommande désormais le port généralisé d'un masque de protection dans les lieux publics, bien que le pays soit encore relativement peu touché. Au Maroc, le roi Mohamed VI a gracié plus de 5000 détenus hier pour empêcher que le coronavirus ne contamine les prisons. L'Algérie étend le confinement partiel à l'ensemble de son territoire. Enfin, au Burundi, la fédération de football du pays, réunie en assemblée générale extraordinaire hier à Bujumbura, en présence du ministre de la Santé, Thaddée Ndikumana, va poursuivre ses championnats de première et deuxième division après la découverte des premiers cas de coronavirus la semaine dernière. Pour rappel, la pandémie a fait au moins 68 125 morts dans le monde et plus d'1 244 000 cas d'infection dans 191 pays et territoires.
Au Bénin, l'ancien président et principal opposant Thomas Boni Yayi a annoncé qu'il quittait son parti politique à quelques semaines des élections locales. Il accuse son successeur, Patrice Talon, de préparer un parti unique. Le point avec Michel Joseph.
Dans une note aux militants du parti Force Coris pour un Bénin émergent ou FCBE, M. Thomas Yayi Boni dénonce la poursuite d'un processus d'exclusion par des réformes personnelles au rang desquelles figure la nouvelle charte des partis politiques. Cette charte nous conduit inexorablement à un parti unique à la solde du président de la République, affirme M. Yayi Boni. Il accuse le président Talon de vouloir faire disparaître le FCBE avec la complicité de certains militants. Par conséquent, il annonce son retrait de ce parti tout en se réservant le droit et le devoir d'opiner sur la gestion des affaires du pays. Le Bénin est secoué par une grave crise depuis les législatives contestées d'avril 2019, auxquelles les partis d'opposition n'ont pas pu se présenter. Des élections municipales sont prévues le 17 mai prochain, malgré la présence du coronavirus.
En Côte d'Ivoire, Amnesty International réclame des soins d'urgence pour le député Alain Lobognon, emprisonné depuis 3 mois. L'ONG dit craindre pour la vie de ce militant proche de l'ancien chef rebelle et ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Accusé d'atteinte à l'autorité de l'État, Alain Lobognon a urgemment besoin de soins médicaux, écrit Amnesty International, qui dit craindre pour sa vie. Député de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Soro, M. Lobognon a été arrêté fin décembre 2019 et accusé de tentative d'insurrection. Son immunité parlementaire a été levée le 20 janvier. 16 autres membres du même parti, dont 4 autres députés, ont également été arrêtés à la fin de 2019. Les autorités ont suspendu toutes les visites à ces détenus du 18 mars au 16 avril pour empêcher la propagation du coronavirus. Aussi, 2 directeurs de journaux ont été condamnés mardi à de lourdes amendes pour avoir publié un communiqué du collectif des avocats d'Alain Lobognon qui s'inquiétait de ses conditions d'incarcération.
Minute Éco, Nathalie Barge.
Le président du Niger demande un plan Marshall pour l'Afrique. L'État nigérien estime à 600 milliards de francs CFA, soit 7,4% de son PIB, les besoins financiers pour la lutte contre l'épidémie et pour soutenir l'économie. Niamey estime que son taux de croissance économique devrait baisser en 2020 de 2,8 points, de 6,9% initialement prévu à 4,1%. Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, a annoncé une série de mesures pour faire face à l'épidémie, dont la suspension de certaines taxes et la création de fonds pour les entreprises en difficulté et le secteur informel. Le chef de l'État burkinabé chiffre l'effort public de soutien économique à près de 400 milliards de francs CFA, soit 4,45% du PIB. L'OMS conseille aux pays africains de mobiliser des respirateurs artificiels qui ne sont pas produits sur le continent. Le Conseil norvégien pour les réfugiés indique que la Centrafrique n'en a que 3. En Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants, seulement 54 respirateurs sont réservés aux patients souffrant du coronavirus, selon le ministère de la Santé.
L'espoir à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, en raison de la pandémie de coronavirus, on s'attend à un report des matchs internationaux de juin.
Oui, un groupe de travail de la Fédération internationale de football a recommandé hier le report de toutes les compétitions internationales prévues en juin en raison du coronavirus qui a stoppé la plupart des championnats nationaux de football à travers le monde. Cette décision touche aussi la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Après le report des 3e et 4e journées initialement prévues en mars, la prochaine journée prévue du 5 au 7 juin sera aussi annulée. Le calendrier se reset donc pour les sélections africaines, puisque la phase finale de cette CAN est prévue pour janvier-février 2021.
La FIFA envisage également de verser des sommes d'argent avant le 30 juillet 2020 aux différentes fédérations.
Oui, et selon nos confrères arabophones, la Fédération royale marocaine en fait partie. Une somme de 30 millions de dirhams qu'elle se chargera à son tour de distribuer aux clubs marocains afin de les aider à surmonter l'impact du Covid-19 sur leur trésorerie. Ces sommes d'argent seront directement versées aux fédérations par la FIFA sans passer par les confédérations continentales, précise Assaba. Le but étant d'éviter les retards de versement. Plusieurs clubs à travers le monde, surtout les pays les plus pauvres, n'auront que cette aide bienvenue comme moyen de sortie de la crise.
En Algérie, pas de reprise des compétitions avant le 19 avril.
Initialement prévue pour hier dimanche, la reprise des activités sportives en Algérie, dont le championnat de football, a été décalée au 19 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. Ainsi, il va falloir attendre la deuxième quinzaine du mois d'avril pour constater l'évolution du coronavirus au pays et trancher ensuite définitivement pour savoir si les compétitions sportives reprendront le 19 avril ou plus tard.
Direction la Tunisie, la Fédération de football ainsi que tous les clubs seraient contre l'hypothèse d'une saison blanche.
Et la décision finale devait être prise lors des deux prochaines semaines et pourrait être influencée par la stratégie de la FIFA qui suit de très près l'évolution de la situation du football à l'international. Pour les clubs tunisiens, deux solutions sont actuellement envisageables. La reprise vers la fin du mois d'avril ou au mois de septembre prochain. Sinon, tous les intervenants ne sont pas favorables à l'idée de mettre fin au championnat selon le classement actuel des clubs.
Élisée, le célèbre site Transfermarkt a publié le classement des championnats de football en Afrique qui ont la plus grande valeur marchande.
Exactement Idrissa, et c'est celui de l'Afrique du Sud qui est en tête avec une valeur estimée à 146 millions d'euros, suivi par l'Égypte qui vaut 137 millions d'euros. Pour le reste, la Bolota au Maroc est classée 3e avec 126 millions d'euros. En 4e position, on retrouve la Ligue 1 tunisienne estimée à 118 millions d'euros. Et le championnat d'Algérie ferme le top 5 avec un poids économique de 92 millions d'euros. Notons que la première ligue ghanéenne et nigériane sont classées respectivement 6e avec 18 millions d'euros et 7e avec 200 000 euros.
Le monde.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idriss Tassé-Lubia. Nous passons maintenant à nos magazines du jour. Au Sénégal, le 60e anniversaire de l'indépendance a été fêté dans la plus grande sobriété à cause, bien entendu, de la pandémie de coronavirus. Les forces militaires et paramilitaires ont passé leur fête auprès de la population dans la lutte contre le Covid-19. Pour les hommes de troupes, l'essentiel est de rester au service de la nation. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Excellences, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le capitaine Kalautine. À vos aides, Monsieur le Président de la République. Attention pour les couleurs. Envoyez.
C'est par une prise d'armes dans la cour d'honneur du Palais de la République que l'an 60 de l'indépendance du Sénégal a été célébré. L'état d'urgence sanitaire imposé par le Covid-19 a privé les forces de défense et de sécurité de leur traditionnel défilé. Ousseynou Faye, adjudant-chef de gendarmerie à la retraite, estime que même si c'est pénible, l'intérêt de la nation est toujours la priorité des troupes.
Un sentiment de regret, on peut dire oui, mais pas de tristesse. Parce que vu le contexte actuel et l'évolution de la maladie, nous ne pouvons que soutenir les actions du président de la République. Bon, une prise d'armes, nous sommes habitués. À chaque fois qu'il y a un événement qui empêche au président d'organiser la fête au niveau national, on s'en remet toujours à une prise d'armes. Et vu, comme je l'ai dit tantôt, la situation sanitaire, vraiment nous n'avons aucun regret.
Même son de cloche du côté de l'adjudant-chef à la retraite d'Am Diop, qui affirme que le concept armée-nation est plus que jamais de rigueur. L'homme qui a servi 36 ans au bataillon des parachutistes affirme que quel que soit le sentiment éprouvé, il faut toujours aller au front.
Oui, affirmatif, les sentiments de tristesse. Mais on n'y peut rien contre la volonté de Dieu. Le rôle, c'est le rôle de sensibilisation, conscientiser, surtout la situation à laquelle la maladie de coronavirus qui est en train de faire du mal, partout dans le monde. Donc le rôle, c'est de sensibiliser les gens en ce sens-là. L'éviter, surtout l'éviter, les attroupements et tout.
Du côté de la population, on se réjouit de la présence et de l'engagement des forces de défense et de sécurité dans cette lutte contre le Covid-19. Même si à Dakar, les premiers jours du couvre-feu ont été marqués par quelques débordements, le jeune Siré appelle les populations à plus de responsabilités, car la présence des troupes sur le terrain est importante et rassurante.
On constate des manquements, mais je crois que c'est dans le bien général. La population quand même est consciente que c'est dans le bien général qu'ils sont en train de mener cette tâche. Ils sont en train d'abattre un rôle, je crois, qui est exemplaire, qui leur est dévolu. C'est une chose plus que normale, surtout avec cette situation. On ne peut pas attendre des citoyens quand même que les forces de l'ordre leur demandent de dégager. Ils n'ont qu'à faire mettre du sien quand même, vu la situation, qui est plus que grave.
Dans un monde éprouvé par la pandémie du Covid-19, le Sénégal ne fait pas exception avec un calendrier complètement bouleversé. Le 4 avril, date symbole de l'indépendance, n'a pas connu de défilé cette année, mais a plutôt consacré un rapprochement entre la population et les forces de défense et de sécurité déployées sur toute l'étendue du territoire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le Cameroun affirme avoir saisi de la fausse chloroquine dans au moins 300 pharmacies et hôpitaux. Les gens se précipitent pour obtenir ce médicament antipaludique, croyant qu'il peut guérir le coronavirus. Les faux médicaments viennent s'ajouter aux ravages de la pandémie, nous dit Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé dans ce reportage repris ici par Lionel Gahima.
Anatole Lobé, directeur de Saint Martin's Healthcare, un hôpital privé de Yaoundé, dit que depuis que le gouvernement a annoncé que la chloroquine contrefaite a été trouvée dans les hôpitaux et les pharmacies du pays, il a pris soin de ne pas acheter des faux médicaments qui pourraient mettre en danger la vie de ses patients.
Il y a beaucoup de petits malins, voyant qu'il n'y a plus de chloroquine dans les pharmacies, qui vont vous vendre des boîtes avec non-chloroquine sans savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à ce moment, on parle de poison, c'est véritablement un danger.
Le gouvernement a annoncé la semaine dernière avoir scellé 2 sociétés pharmaceutiques et arrêté 7 membres du personnel qui fabriquaient de faux médicaments dans la ville de Bafoussam, dans l'ouest du pays. Rose Abondongonombala, directrice générale du Laboratoire national de contrôle et d'évaluation de la qualité des médicaments, affirme que c'est une véritable nuisance pour ceux qui tentent de se remettre du paludisme.
L'Organisation mondiale de la santé avait déjà alerté depuis le 9 mars qu'il y avait des antimalariques falsifiés qui circulaient au Cameroun, au Tchad et au Nigeria. Nous recevions des coups de fil des formations sanitaires, d'autres des pharmacies, qu'elles avaient des chloroquines et qu'elles voulaient qu'on teste.
C'est son laboratoire qui a découvert que la plus grande partie de ce qui est vendu sous forme de chloroquine est simplement un mélange d'eau et de craie blanche. Le gouvernement a également déclaré qu'une partie de la fausse chloroquine a été importée du Nigeria sans donner plus de précision. Yaou Zakari Aladji, le plus haut responsable de la santé de l'unité administrative d'Adamawa, qui partage une frontière avec le Nigeria, appelle à la prudence.
Nous avons essayé de tester avec nos pharmaciens, nous avons tout constaté que ce n'était pas de bons produits. C'est de l'eau mélangée à de l'alcool et qu'on pulvérisait entre les mains des clients qui entraient dans les boulangeries, les minettes. Alors nous les avons intimés lors de changer rapidement et de mettre le meilleur produit.
Le premier cas de coronavirus a été confirmé le 9 février au Cameroun. Depuis, il y a eu 8 décès causés par le virus et 306 cas. La ruée vers la chloroquine a commencé après que des chercheurs français ont annoncé que la moitié des 14 patients atteints de coronavirus qui ont suivi un traitement avec ce médicament antipaludique se sont améliorés plus rapidement. Puis le président américain Donald Trump l'a qualifié de remède potentiel. Cependant, d'autres chercheurs disent que des tests plus importants sont nécessaires pour s'assurer que la chloroquine est efficace et ne présente aucun risque.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Tchad, une jeune dame se fait remarquer dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Netoi Ernestine Le Néribar a lancé une initiative de distribution de seaux à robinet à N'Djamena, la capitale. Notre correspondant dans la capitale tchadienne, André Kotmajingar, lui a rendu visite.
Présidente de l'association Femmes aussi, un groupe d'appui aux personnes vulnérables, Netoi Ernestine Le Néribar a décidé de s'impliquer dans la sensibilisation de la population aux mesures d'hygiène. Avec ses propres moyens, elle fabrique des seaux à robinet qu'elle offre aux familles démunies afin que celles-ci puissent se laver convenablement les mains. Au micro de VOA Afrique, elle explique sa motivation.
J'ai juste pris 2 bidons, j'ai commencé à le siphonner. D'abord, premièrement, j'ai raté, après j'ai pris un autre, j'ai essayé, ça a marché. J'ai commencé d'abord à sensibiliser ma maison parce que j'ai vu dans en cours commune. Les voisins aussi ont répondu à l'appel, ils ont ramené leurs seaux qu'on a fabriqués. Je suis sortie un peu dans le quartier aussi. J'ai vu des femmes qui veulent bien en avoir, mais elles ne peuvent pas parce que financièrement, elles sont limitées. J'ai essayé d'aller acheter moi-même en fabriquer. C'est des dons. On distribue à des familles vraiment démunies.
Activiste et entrepreneur, Netoi Ernestine Le Néribar se sert des réseaux sociaux pour exhorter des personnes de bonne volonté à appuyer son initiative en fournissant des seaux en plastique. Selon elle, son appel à aider les plus vulnérables face à la crise sanitaire du Covid-19 a été entendu.
De 3, on est tombé sur 5, de 5, 20, 30. Hier, par exemple, on a fabriqué plus de 500 seaux. L'idée, ce n'est pas d'arrêter dans mon quartier, mais l'idée, c'est d'aller à l'intérieur du pays et distribuer. Je sais que nous traversons un moment difficile là, mais on le fait avec un cœur.
La jeune femme n'est pas seule dans cette œuvre. Quelques jeunes bénévoles lui donnent un coup de main.
Puisque je fais rien à la maison, je n'ai pas venu à l'aide à la femme qui est en train de faire quelque chose de
c'est une sale maladie. Il faut de l'hygiène. C'est de poser devant le portail. À chaque visiteur qui entre, doit se laver les mains normalement. Même les habitants de la maison peuvent aussi utiliser à chaque moment.
Les tenanciers de Gargote, restaurant de fortune dans la commune du 7e arrondissement qui ont bénéficié de ce don, n'ont pas caché leur satisfaction.
On remercie la ferme beaucoup pour le sang, pour laver le nom gouvernement d'Asmaranel.
Le gouvernement a pris des décisions sans mesure d'accompagnement. C'est grâce à cette dame que nous avons eu cette chance pour nous protéger contre le coronavirus. Nous prions Dieu pour qu'il aide à faire davantage pour nous les pauvres.
Netoi Ernestine Le Néribar s'est dit heureuse de pouvoir apporter sa modeste contribution à la lutte contre le Covid-19. Elle assure ne pas être en quête de notoriété, mais lequel serait très ravi de collaborer avec les autorités dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus au Tchad. André Kodumatigar Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'écrivain franco-rwandais Gaël Faye est convalescent du Covid-19. Dans une interview à VOA Afrique, l'auteur du best-seller Petit Pays, prix Goncourt des lycéens, affirme qu'il a été laxiste et qu'il a sous-estimé l'importance de l'épidémie. Il qualifie le Covid-19 de virus de la solidarité. Il s'est confié à Vénuste Nishimimana.
Disons que j'ai surtout été laxiste. J'ai pensé que c'était une grippe comme il en existe chaque hiver, chaque saison. Et comme je n'ai jamais attrapé la grippe, que je tombe très peu malade, j'ai sous-estimé l'importance de cette épidémie.
À quel moment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez malade ?
Je me suis rendu compte que j'étais malade le vendredi 13. J'ai été contaminé le 11. C'était une journée promotionnelle pour la sortie de mon film Petit Pays. J'ai rencontré énormément de journalistes, une cinquantaine. Comme je disais, j'ai serré les mains, j'ai pas pris de précautions particulières. Et j'ai commencé donc le vendredi à avoir des courbatures, à avoir des maux de tête. Et donc comme je sentais que j'avais des symptômes, pour éviter de toucher mon entourage, je me suis tout de suite isolé dans une chambre.
Avez-vous eu tout de même le temps de parler à votre médecin ?
Alors non, pas tout de suite, comment mon état s'est aggravé. Et j'ai eu des problèmes respiratoires au bout de quelques jours. Et donc j'ai contacté un médecin. Il s'avère que des gens avec qui j'étais de l'équipe du film étaient à l'hôpital, étaient positifs au Covid. Et comme je n'arrivais plus quasiment plus à respirer, il m'a donné des antibiotiques.
Et maintenant, comment vous sentez-vous ?
Maintenant, je vais bien. Je suis resté 15 jours. C'est une maladie qui affecte énormément les poumons, qui les enflamme.
Vous lui avez donné un nom au sens humain du terme. Vous le qualifiez de virus de la solidarité. Expliquez-nous un peu.
Oui, c'est-à-dire qu'on s'emprisonne soi-même pour se sauver soi et sauver les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est pour moi aussi une manière de penser à l'autre. Ce geste de confinement, c'est la pensée à l'autre. Plus valorisé dans nos sociétés, sont plus protégés pendant cette période de confinement. Mais c'est quand même un virus qui nous dit, si vous voulez sauver les autres, commencez par prendre soin de vous et prenez soin des autres. Voilà. Je voulais dire qu'on est dans une urgence, il y a vraiment des gens qui meurent, il y a une vraie épidémie. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment rester vigilant et prendre la menace au sérieux.
L'écrivain Gaël Faye au micro de Vénuste Nishimimana.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. I want
C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloulia et de Michel Joseph à la mise en œuvre. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.